Nous allons parler de la version 2013 de l'étude Regards croisés, qui est en fait un baromètre que vous réalisez auprès d'un panel assez large de distributeurs de l'informatique, des VAR, des grossistes représentatifs de la population totale. Alors, est-ce que vous pouvez décrire ce monde de la distribution informatique? De quoi on parle? De serveurs, de PC, de logiciels?
On parle globalement de serveurs, de PC, de logiciels, mais aussi de tous les opérateurs. Et puis toute la partie aujourd'hui des nouveaux métiers, le stockage, la mobilité, voilà. Et c'est dans cette distribution, il faut considérer les marques qui sont donc en amont les constructeurs, éditeurs, opérateurs, les grossistes qui ont donc ce rôle d'intermédiaire et les revendeurs qui sont là aussi assez divers parce que ça peut être des très gros revendeurs type LAR, je pense à SCC ou Econocom, ou à des tout petits revendeurs très orientés service, très local et qui ont quelques personnes en interne et quelques clients qui sont très implantés régionalement là aussi, mais avec un bassin d'intervention plus limité.
Et on parle finalement d'un marché assez traditionnaliste, avec un circuit long.
Oui, mais qui vit aujourd'hui de vraies mutations, des vraies mutations sur des enjeux liés à sa valeur ajoutée et des enjeux liés aussi au modèle cloud où les clients ont pris l'habitude d'aller souscrire à des offres en ligne et aussi aller acheter en ligne directement des produits et le e-commerce là est sous forme de danger pour ce modèle-là. Les chiffres de vente de PC sont en baisse parce que les usages sont en train de changer, que les gens viennent avec leurs propres tablettes et voilà. On peut dire aussi que c'est une opportunité parce que ça crée de la complexité dans l'infrastructure de l'entreprise et que le revendeur, il peut justement apporter une valeur ajoutée service pour aider l'entreprise à trouver des solutions, que ce soit les bons matériels, leur intégration, la sécurisation, des accès, des données, etc.
Si on revient au résultat de l'étude proprement dite, et sur les quatre conclusions, d'abord, ce que vous appelez la continuité.
Alors la continuité, parce qu'on voit une certaine régularité entre les notes de 2013 et 2012, c'est-à-dire qu'on voit encore cette année que les constructeurs sont les mieux notés des trois populations, hein, donc c'est l'avis que donnent les grossistes et les revendeurs sur le marketing des constructeurs, et c'est eux qui ont la meilleure note, les grossistes sont en deuxième position, et les revendeurs sont les moins bien notés, les constructeurs et grossistes jugeant leur action marketing plutôt faible, vu qu'ils ont 11,92 sur 20.
Le deuxième point, c'est ce que vous appelez la pression sur les leads. Qu'est-ce que vous entendez par là?
La pression sur les leads, parce que plus la crise se fait ressentir, plus la pression sur les leads est forte. Les revendeurs, ils sont clairement en attente d'opportunités commerciales de la part de leur marque, et donc il y a des actions marketing qui sont menées soit par les marques seules, soit conjointement avec le revendeur. Et là, aujourd'hui, il y a une vraie ambiguïté souvent sur le mot lead. Est-ce que c'est une opportunité commerciale? Est-ce que c'est un intérêt détecté? Est-ce qu'il faut juste closer ou est-ce qu'il faut mener une action commerciale dans sa globalité? Voilà, néanmoins, les revendeurs sont fortement en demande de leads, et puis les marques se plaignent de mauvaises transformations de ces contacts générés. Je dirais également, il y a souvent une ambiguïté aussi, ou un challenge lié au marketing à l'ancienne. Générer un pipe d'opportunités, c'est plus envoyer des emailing et attendre que ça revienne, c'est développer de la valeur solution, c'est apporter une offre complète, relancer, passer les étapes les unes après les autres jusqu'à la vente.
Le troisième point, c'est les incentives sur les challenges.
En fait, on voit qu'aujourd'hui, 64% des marques déclarent organiser des challenges et incentives. Et lorsqu'on demande aux revendeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Ils notent sur 20, 10, 63, et cette note est en régression par rapport à 2012. Donc nous, on y voit trois raisons. Premièrement, des mécaniques qui visent trop souvent à récompenser les meilleurs revendeurs, et donc on connaît dès le début du challenge qui va gagner, et on exclut les challengers qui ont envie de s'investir et ils sont démotivés dès le départ. Première raison. Deuxième raison, des budgets qui baissent le nombre de gagnants. Là où avant on avait peut-être les 20 meilleurs, maintenant on va créer un podium et c'est simplement les 3 meilleurs qui vont gagner. Et puis en plus, les dotations sont clairement en baisse. Là où on gagnait des voyages ou des super cadeaux, aujourd'hui on gagne des cadeaux nettement moins intéressants. Néanmoins, on voit que ce qui intéresse les revendeurs, c'est de gagner du cash. Troisièmement, c'est une législation qui est très incertaine et qui crée un certain stress, je dirais, même autour des charges sociales, que ce soit du côté de l'organisateur, que ce soit du patron revendeur, ou du côté des participants, et parce qu'aujourd'hui, clairement, on leur demande leur numéro de sécu, et donc c'est pas très engageant dans une dynamique d'incentive.
Le dernier point, ce sont les programmes partenaires.
Il y a un vrai équilibre. 51% des revendeurs considèrent que les programmes partenaires leur apportent plus d'avantages que de contraintes, et donc 49% considèrent que c'est plus de contraintes que d'avantages. Ça, pour moi, c'est un chiffre très positif parce que justement, un programme partenaire, ça doit être à la fois des outils pour aider et à la fois des engagements pour réussir à atteindre une démarche de vente. Donc, c'est un très bon équilibre dans la compréhension des objectifs d'un programme partenaire.
Et surtout, les revendeurs sont demandeurs d'un contact humain.
La note qui est le plus demandée, hein, c'est même quasiment considéré comme indispensable dans les différents critères qui étaient proposés, et 72% des fournisseurs le proposent. Donc on va se dire que même si ça peut être considéré comme une approche à l'ancienne, ça reste stratégique parce que c'est des produits souvent à forte valeur ajoutée à solution, et on a besoin, le revendeur a besoin de poser des questions et d'être assuré sur ce point. Moi, je mettrais un autre chiffre en avant qui sont les produits de démonstration, qui sont considérés comme très importants par le revendeur, mais qui ne sont proposés que par 57% des fournisseurs. Et là, je pense qu'il y a un travail à faire. Le modèle de la distribution informatique reste encore effectivement traditionnel dans une certaine approche où il y a un contact humain qui doit se faire. Aujourd'hui, je pense que le marché est tellement difficile, les enjeux financiers sont importants au sens que je veux dire qu'il y a tellement peu de marge que clairement les revendeurs devraient se tourner sur un double modèle avec en laissant le client directement acheter des produits sur des e-shops, voire directement auprès de la marque hein, ou du constructeur, et puis eux se créer un modèle parallèle où ils vont apporter de la vraie valeur ajoutée, facturer au réel, gagner leur vie là-dessus et non pas pseudo-vivre, je dirais, sur des toutes petites marges liées à du commerce, à du négoce, où aujourd'hui il n'y a plus de marge.
Donc l'avenir de la distribution informatique, ce n'est pas le matériel, c'est le service.
C'est la valeur ajoutée. Alors, ça peut être le matériel dans l'approche en amont. Je vous conseille, je vous construis une infrastructure. Voilà. En tout cas, c'est dans l'intelligence qui n'est pas simplement une distribution, qui n'est pas de la revente, qui est de l'intégration et de la réponse à des besoins qui sont aujourd'hui divers avec l'arrivée de nouveaux logiciels, l'arrivée de nouveaux matériels et qu'il faut intégrer tout ça d'une manière logique dans une infrastructure et avec des usages des utilisateurs.